d'abord PIF, c'est d'abord ça.
Il faut ça. Ah, il faut ça.
Attendez, d'abord il y a la technique.
Ça fait une petite pause.
Oui. Voilà, alors bonjour, rebonjour à tous. Bon, ils m'ont déjà présenté. Aussi, je suis Madame Bible. Et en fait, je le suis depuis très longtemps, parce que je suis au CIF depuis 23 ans. Donc en fait, je deviens un peu la mémoire du CIF. Bon, ça ne va pas durer éternellement, mais en ce moment, c'est comme ça. Voilà. Avant, j'ai enseigné, et même en même temps, j'ai enseigné longtemps, un peu partout, au lycée, au collège, et puis aussi presque une trentaine d'années à l'Institut catholique de Paris. Et quoi ? La Bible. Alors, vous avez entendu parler de la théologie, vous êtes convaincus. Vous allez faire un parcours passionnant en théologie. Moi, il me manque un peu quelque chose, alors, quelque chose qui y était, mais il faut aussi l'articuler, le dire. Et donc, mon but, c'est de vous montrer qu'il faut articuler de façon particulière tout ce qui a été dit de la théologie et cette lecture, ce travail sur la Bible qui va être omniprésent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les 6 trimestres présentés par Bernard tout à l'heure, il n'y avait pas de trimestre biblique. Bertrand, excuse-moi. Il n'y avait pas de... C'est toi, Bernard. Il n'y avait pas de... C'est terrible, ça. Il n'y avait pas de trimestre biblique. On met un peu à côté une introduction. Bon. Ce n'est pas parce que la Bible est à côté et qu'il faut s'en débarrasser un samedi. C'est parce qu'en fait, elle est partout. Et dans tous les cours, je l'espère, vous allez entendre parler de la Bible, vous allez la lire, elle va être là, voilà. Parce que la Bible, c'est un terreau nourricier, c'est une espèce de source qui diffuse un peu partout, des fois même sans le dire, à l'intérieur de la démarche théologique. Voilà. Ça va le nourrir, ça va l'informer, être là comme un élément du dialogue et de cet ensemble que la raison va avec laquelle la raison va dialoguer sans arrêt, eh bien, au premier chef, il y aura la Bible. Bertrand a dit tout à l'heure que la théologie, c'était un discours ou une parole en grec, on dit un logos, en latin on traduira par verbe, mais j'aime pas bien ça, parce que ça fait penser au sujet, au complément, à la grammaire. Bon. Non, une parole sur Dieu, ou au sujet de Dieu, parfois on essaie avec Dieu. Voilà. C'est Logos, la parole, théos, Dieu, la théologie. La Bible, on dit au contraire, parfois, mais on va le dire avec prudence, il va falloir s'en expliquer, que c'est la parole de Dieu. Dans la célébration du dimanche, depuis un certain temps, même si ça pose un peu problème, mais ça ne fait rien, quelqu'un qui vient lire a lu un texte de l'Écriture, il termine par « parole de Dieu ». C'est théou logos, c'est une autre façon d'agencer les deux, Dieu et la parole. C'est dire que Dieu parle, et puis vous savez aussi que l'évangile de Jean commence par « au commencement était la parole ». Et donc Jésus, que les chrétiens disent « fils de Dieu », et dit aussi « parole de Dieu ». Voilà. Donc la question là que je vais essayer d'un peu avancer avec vous, puis on en reparlera aussi, et ça sera aussi l'objet de votre premier trimestre, je crois, c'est qu'est-ce que ça signifie quand on dit que Dieu parle et quand on dit en particulier qu'il parle dans la Bible, d'autant plus que la Bible, nous l'avons, crac, 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 là, essentiellement, aujourd'hui, sous forme écrite. Alors, sous forme de très, très vieux manuscrits, là, vous avez un des plus anciens morceaux de papyrus trouvé à Qumran en hébreu, et puis vous avez chez vous des tonnes de livres dont, ça y est, j'ai encore perdu. Voilà, un exemplaire, la Bible. Quand on la lit dans la célébration, on relève cette parole et elle devient parole vivante. Dans quelle mesure elle devient parole de Dieu, c'est ça que je voudrais un peu regarder avec vous. Alors, je serai assez rapide, mais je voudrais poser 3 points et puis on les reprendra ensemble dans les sessions bibliques et aussi vous les verrez vivre dans vos cours. Je fais une chose un peu générale d'abord. Je passe par l'écriture de la Bible et donc par quelque part le peuple d'Israël. Et plus largement, les peuples anciens qui ont toujours été, et nous en faisons partie, hein, la France, les Gaulois, en quête de leur histoire et qui ont toujours tenté de lier leur identité à une divinité, un grand ancêtre, un patriarche, un fondateur, alors Vercingétorix, allez voir le site d'Alésia. Bon, Clovis, le baptême de Clovis. Il y en a qui aiment mieux la Révolution, Louis XIV, il y en a qui allaient à Versailles, il y en a qui aiment mieux la Révolution, il y en a qui aiment mieux Napoléon. Enfin, voilà, on se cherche un ancêtre fondateur. Qu'est-ce qu'a fondé la France ? Eh bien, le peuple d'Israël, à travers les siècles, entre, on va dire, pas le premier millénaire, mais 600, 800 avant Jésus-Christ, et puis le début de notre ère, un siècle avant Jésus-Christ, a aussi, sans arrêt, interrogé son passé pour comprendre quelle divinité, à l'époque c'était surtout des divinités, quelle divinité y présidait. Qu'est-ce que c'était qui le fondait, qu'est-ce qui lui permettait d'être un peuple ? Et il découvre un dieu qui lui parle. Seulement, il le découvre comment ? Eh bien, en se retournant vers le passé, il n'y avait pas encore d'archives, mais justement si, en allant chercher dans ce qu'on peut appeler ses archives, la mémoire orale, et déjà des tas de textes, des tas de récits, des mythes qui existaient dans les pays avoisinants, mais qui s'étaient appropriés aussi, des grandes légendes, les patriarches, nos grands ancêtres, des récits déjà un peu historiques, parce qu'il y avait des annales royales, donc on se penche sur ces histoires. Il y a aussi des contes qui circulaient. Jonas, c'est un très joli conte. Jonas, 3 jours dans le ventre du grand poisson. Vous racontez ça à vos petits-enfants dès l'âge de 2 ans et demi, ils vous demandent après sans arrêt, on raconte Jonas. Voilà. Il y a aussi des textes de loi. Les textes de loi, ça remonte à des millénaires des fois. Ils ont des livres de sagesse. Ils ont des gens qu'on appelle des prophètes qui ont délivré des oracles. Il y en a partout des oracles. Il y a des poèmes. Les psaumes sont des poèmes liturgiques, des prières, voilà. En tout cas, le peuple d'Israël va chercher là-dedans. Et la Bible, c'est d'abord un recueil de toutes ces richesses littéraires, parce que ça devient littéraire quand on le met par écrit, dans lequel on va essayer de chercher quel est le Dieu qui préside à notre identité, quel est le Dieu qui nous fonde. Donc d'abord, la Bible, si ce sont tous ces genres littéraires que j'ai énumérés, rassemblés, mis par écrit, vous voyez bien que ce sont d'abord des paroles d'hommes. C'est des hommes qui ont raconté ça, la littérature orale, la littérature écrite. Ce sont d'abord des paroles d'hommes et on ne peut pas s'y tromper parce que quand vous plongez dedans, vous plongez dans une humanité bien concrète, bien coupable, bien pécheresse, une humanité avec ses turpitudes, ses horreurs, ses guerres, mais aussi ses grandeurs. Ses aspirations, sa splendeur, son désir, voilà, son désir d'aller mieux, son désir d'avancer. En tout cas, la Bible, ça vous ancre dans un paquet d'histoires humaines. Et c'est extraordinairement concret et finalement extraordinairement proche de notre expérience à chacun. Qui n'est jamais une expérience de pur, mais bien plus on vieillit, plus on s'aperçoit à quel point c'est une expérience mêlée et comme notre monde est un monde mêlé. Voilà. La Bible, ce sont des paroles d'hommes plongé dans le terreau de l'humanité bien concrète, mais des paroles d'hommes à la recherche de Dieu et qui essayent de faire résonner dans ces paroles d'hommes l'écho d'un Dieu qui parle. L'écho d'un Dieu qui parle. Alors, je m'arrête bien sur ce sont des paroles d'hommes parce que ce sont des paroles donc en contexte, situées, limitées, parfois contradictoires parce que suivant les époques, si c'est écrit sur 8 siècles, et à des lieux différents, on vit des choses différentes. Il ne faut pas s'étonner des contradictions jusque dans le Nouveau Testament. Les expériences humaines sont parfois contradictoires. Voilà. Et c'est toujours en contexte, c'est amené à changer, et la théologie va suivre, avec les siècles. La théologie que fait Bernard n'est pas celle que faisait saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin, même si on dira peut-être un jour saint Bernard de Clazen ou un truc comme ça. J'en sais rien, bien sûr. Voilà. C'est à travers ces paroles d'hommes qu'il faut arriver à trouver l'écho, parce qu'elles sont en quête de Dieu, de ce qu'on va appeler la parole de Dieu. Alors, je continue, un deuxième point. Ce petit peuple, tout petit, d'Israël, qui a vécu tout cela, il ose affirmer, et c'est une audace inouïe, qu'en remontant toujours plus loin dans les siècles, dans ses récits fondateurs, il a toujours découvert quelqu'un. Quelqu'un qui le précède, quelqu'un qui l'a toujours précédé, quelqu'un qui était là, qui l'attendait et qui l'a accompagné, auquel il va commencer par donner des noms divers. Dieu prend des noms divers. D'abord, il y a diverses divinités qui vont se réunir. Mais l'affirmation, c'est quelqu'un était là, qui m'attendait, quelqu'un qui m'a pris en main et qui ne m'a pas lâché. Pour moi, une des illustrations les plus fortes de ce que c'est la Bible, mais ce que c'est aussi en partie la démarche théologique et votre démarche aussi, elle est dans une histoire biblique que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, je vous la raconte. Il s'agit du patriarche, celui qu'on appelle un patriarche, Jacob. Jacob qui s'appelle aussi Israël, donc qui a donné son nom au peuple, hein, son double nom. Alors Jacob, vous le savez, c'est celui qui a volé la bénédiction paternelle à son frère Ésaü. Dans les mots croisés, on le trouve partout, Ésaü, le mangeur de lentilles, etc. Celui qui a vendu la bénédiction paternelle pour un plat de lentilles. Évidemment, ça se passe mal parce que Jacob est furieux, et donc Ésaü est furieux, et Jacob est obligé de s'enfuir. Il s'enfuit et il arrive un soir à un endroit où il y a un sanctuaire, probablement de divinités multiples, Bethel, où il s'endort, la tête sur une pierre. Et il fait un songe, et dans ce songe, le ciel s'est ouvert, et une échelle rejoint le ciel et la terre, et des anges y montent et y descendent, des personnages célestes. Le ciel s'est ouvert pour lui, et Dieu lui parle. Et quand Jacob se réveille, il dit « Le Seigneur était là et moi, je ne le savais pas. » Et ça, c'est toute la Bible. C'est un regard en arrière, mais c'est aussi une expérience que l'on fait chacun à des moments de notre vie. On se retourne en arrière, on relit l'histoire, ce que fait la Bible sans arrêt. On relit l'histoire et on dit ah, « Le Seigneur était là et moi, je ne le savais pas. » C'est ça qu'ils ont découvert. Ils ont découvert un Dieu, ils vont l'appeler Dieu, et c'est ce Dieu qu'ils nous ont légué. Nous avons reçu du judaïsme ce Dieu unique qui était là depuis toujours et qui nous attendait et qui nous accompagne. À ce moment-là, la question devient tout de suite théologique, puisqu'on va parler de ce Dieu, ce Seigneur, on va essayer de dire quelque chose de lui. Et à nouveau, la Bible va nous servir à nous mettre en garde. Il y a des tas de points de vue dans la Bible sur Dieu. Vous n'allez pas trouver le Dieu unique. Si, il a tendance, parce qu'on relit toujours, on va tendance à l'unifier, à montrer qu'il était unique, qu'il est le seul, qu'il est le créateur, qu'il est le sauveur. Mais au cours de l'histoire et des expériences multiples qui sont là et qui sont accumulées, il a pris des figures diverses. Le Dieu de la Bible et celui du Nouveau Testament aussi, il est quand même très divers, avec des figures particulières. Ça commence par un Dieu de tribu. Le Dieu des armées, le Dieu Sabaoth, ça veut d'abord dire le Dieu des armées, le Dieu des vainqueurs, parce que dans cette antiquité-là, lorsqu'on était vainqueur, c'est le Dieu qui avait vaincu. Le problème, c'est quand on était vaincu, hein, ça pose un problème. Hein. Est-ce qu'on peut garder pour soi le Dieu des vaincus? Ça va être une question qui va traverser la Bible. Qu'est-ce qu'on fait quand on est vaincu? C'est un Dieu vengeur par moment, ben oui, puisqu'il accompagne un groupe contre les autres. Mais c'est aussi un Dieu, et c'est surtout un Dieu amoureux. Et quand on est amoureux, on peut devenir jaloux. Et c'est un Dieu jaloux. Et c'est terrible d'être jaloux. Donc c'est un Dieu qui peut être violent. Et en même temps, à d'autres moments, et parfois au verset d'après, c'est un Dieu au contraire d'une tendresse infinie. Un Dieu père et mère, un Dieu qui inscrit son peuple sur la paume de ses mains, qui dit « Une femme oublierait-elle son nourrisson ? Que moi je ne t'oublierai pas. » Voilà, un Dieu mère, un Dieu amant, un Dieu amoureux fou qui court après celle qu'il a abandonnée et qui se plaint. Mais pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu qui dit à son peuple, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'abandonnes? C'est incroyable. Toujours un Dieu avec nous. Mais aussi un Dieu, j'allais dire, qu'on ne peut pas saisir tout entier. Parce que c'est un Dieu qui est particulier à chaque expérience humaine et c'est surtout un Dieu dont parle autant qu'elle le peut, la parole humaine qui raconte l'histoire. Et donc, c'est toujours un Dieu limité à notre petite mesure, à la petite mesure humaine. Et au fond, ce qui fait la richesse et la force de la Bible, c'est cette infinie diversité qui est aussi la vôtre, qui va vous allez vous en apercevoir dans les groupes du CIF. Chacun a sa conception de Dieu qui bouge, évidemment, et le CIF va la faire bouger, bien sûr. De toute façon, ça bouge avec notre vie. Mais elle est différente parce qu'il a une expérience différente de celle d'un autre. Il n'y a pas une figure de Dieu plus vraie que celle de l'autre. C'est au fond la confrontation, le fait qu'on en parle ensemble, qu'on partage, qui fait la richesse et qui aussi nous permet de mieux découvrir, ben effectivement, le caractère infini et toujours différent de ce Dieu. Et nous sommes en quête, comme le disait Bernard, de la vérité de ce Dieu qui naît, au fond, de mieux en mieux, de la randonnée partagée que va être le CIF. Voilà. Avec des moments où ça s'obscurcit aussi. Il y a des moments où on ne comprend plus du tout. Et puis d'autres moments où c'est lumineux. Voilà. Avec la mise en garde, jamais nous ne saisirons le tout de Dieu. Si vous avez tout compris, disait Augustin, si vous le connaissez qui est Dieu, alors vous vous trompez. Vous vous trompez de Dieu. Voilà. La Bible nous rappelle les limites humaines de toute théologie, les limites contextuelles de toute théologie. Dieu se révèle à notre petite mesure. Et je termine, je vais y arriver, sur un dernier point. Ces approches partielles de Dieu, elles ont toutes de commun dans la Bible de nous dire que c'est un Dieu proche et c'est un Dieu qui nous parle. Voilà. C'est un Dieu qui s'adresse à un partenaire, l'être humain, qui ne peut pas parler à tous en général, mais qui s'adresse à un être humain, et puis à un peuple, une tribu, un peuple, et puis à tous. Un Dieu qui parle dans sa création, qui parle au cœur de l'homme, alors on l'a dit, dans le cœur, l'esprit, la raison, etc. Voilà. Un Dieu qui s'adresse de multiples façons à nous. Pourquoi ? Parce qu'il est un Dieu en quête de l'être humain, amoureux de l'être humain, qui se fait toujours... Et l'histoire biblique peut être comprise comme une histoire d'un Dieu qui s'approche de plus en plus de nous, des êtres humains, jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à se faire l'un de nous. Dieu s'est fait homme, la parole, hein, Dieu s'est fait parole, et la parole, nous dit l'évangile de Jean, s'est fait chair. Voilà, la parole s'est fait l'un de nous. Et je boucle là. Vous voyez pourquoi c'était d'abord des paroles d'homme ? Parce que Dieu vient parler en un homme, Jésus-Christ. Et là, il ne va pas falloir dire, ben ça y est, on a tout. On a la vérité, Jésus-Christ. On va oublier à ce moment-là le chemin et la vie. Et non, on a effectivement Jésus-Christ que l'on découvre comment ? Eh bien, d'abord à travers des témoignages humains divers. Le Nouveau Testament, à son tour, fait parler Jésus-Christ au creux de notre humanité, mais notre humanité, elle est diverse. Donc, 4 évangiles, ils se sont battus au commencement de l'Église pour ne pas en avoir un seul. Et nous, on raconte des vies de Jésus, en unifiant tout et n'importe quoi. Et il y a un grand nombre de vies de Jésus sur le marché. Eh bien, ce n'est pas respectueux. Ce n'est pas respectueux. Dieu ne s'est pas révélé comme ça. Nous n'avons pas une vie de Jésus qui est celle de monsieur, il y en a des tas, monsieur Petit Jean, monsieur Machin, monsieur Truc. Non, nous avons 4 évangiles, 4 témoignages différents. Nous avons un récit historique en un certain sens, les actes des apôtres. Nous avons des lettres, les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Jude. Vous ne la lisez pas tous les matins, mais elle existe. Nous avons une apocalypse. Voilà. Nous avons des expériences différentes, non pas la vérité, mais des témoignages d'hommes divers, un bouquet de récits, d'expressions diverses, tous essayant de dire quoi ? Eh bien, essayant de dire ce qu'ils ont compris de ce Jésus comme étant la parole vivante de Dieu parmi nous. Voilà. Ce qu'ils en ont compris, ils essayent de le dire, et c'est à nouveau divers. C'est à nouveau parfois contradictoire. Et il y a dans le Nouveau Testament lui-même des visages différents de Dieu. Il y est le Dieu vengeur, avec les pleurs et les grincements de dents, et les malheurs à vous. Le Dieu amoureux, il y est. Le Dieu père et mère, il y est. Il y était déjà chez le prophète Osée en 750 avant Jésus-Christ. Le plus grand prophète et la plus grande expression du Dieu amoureux de l'homme. Vous allez le retrouver dans la diversité des témoignages du Nouveau Testament. Vous allez me dire Jésus-Christ, oui, mais Jésus, il ne se définit pas. Il vous renvoie la question à ses disciples. Il leur dit, que dit-on de moi ? Alors, un tel, un tel, un tel. Et vous ? Que dites-vous que je suis ? Et c'est ça, au fond, la question qui va vous être posée. Et c'est ça la question dans laquelle on va cheminer pendant le cours de « Sur le Christ » de Bernard, mais pendant, évidemment, tout le temps du CIF, et à mon avis, dans laquelle on chemine toute sa vie, parce qu'on n'a jamais le dernier mot. Et ça fait aussi la richesse du CIF et des groupes. On écoute ce qu'en disent les autres. Voilà. Alors, je termine avec cette question que je vous renvoie, que vous connaissez bien, qui sera la vôtre, et vous, et que vous pouvez poser les uns aux autres, et vous, qui dites-vous que je suis? Et je dirais que, d'une certaine façon, il faut renverser la proposition et l'attitude qu'on a toujours. On a tendance à aller à la Bible pour lui poser nos questions. Je vais ouvrir la Bible et trouver le verset qui va me parler aujourd'hui. Ah mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la Bible qui nous interroge. Et vous, qui dites-vous de Dieu? Et vous, qui dites-vous que je suis? Voilà. La Bible, c'est elle qui nous interroge et qui nous force, eh bien, à tenter de répondre en entrant en théologie. Voilà. Voilà le rôle de la Bible, à mon avis, dans le parcours de théologie. Allez-y, je vous souhaite un beau parcours et on se retrouvera pour parler un peu plus de la Bible le samedi 8 novembre.
Bon, un immense merci à Bernard et à Roselyne pour ces exposés très